Info matin, Nicolas Legrand.
On en sait plus sur le sommet sur la Nouvelle-Calédonie. Il sera ouvert le mercredi 2 juillet à 15h à l'Élysée par le président de la République. Quant au collège économique et sociétal, il se déroulera au ministère des Outre-mer. Un bilan financier dégradé pour la Nouvelle-Calédonie. En 2024, la baisse des recettes fiscales représente 33 milliards de francs. Seuls les apports de l'État permettent à la collectivité de dégager un résultat positif. En métropole, 16 départements en vigilance rouge canicule, direction l'Aude dans ce journal, où un feu de forêt a brûlé plus de 400 hectares. En Algérie, 7 ans de prison à l'encontre d'un journaliste français, notamment pour apologie du terrorisme. Nouvelle brouille diplomatique, le Quai d'Orsay dit regretter vivement cette lourde condamnation. Les mini-jeux du Pacifique avec une première journée prolifique pour la délégation calédonienne. Les nageurs cagou ont brillé en remportant 6 médailles, dont 2 en or. La météo en Nouvelle-Calédonie, vigilance jaune pour des vents violents pour aujourd'hui et la nuit prochaine sur la côte ouest de Bouloupari à Vaux. Le temps est très nuageux à couvert, quant aux températures, elles sont stables de 24 à 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne.
Oui, c'était jusqu'à présent l'incertitude sur l'ordre du jour et le format du sommet sur la Nouvelle-Calédonie décidé par le président de la République. Mais des éléments de programme ont été rendus publics dans la nuit. Le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera ouvert le mercredi 2 juillet à 15h à l'Élysée par le président de la République. Il sera minuit à Nouméa. Une réception sera ensuite organisée dans la salle des fêtes de l'Élysée, l'occasion d'échanges informels entre les groupes politiques et les représentants de l'État. En début de soirée, les délégations politiques se rendront à l'hôtel Hilton de Bougival où ils seront hébergés et où se dérouleront les négociations politiques. Elles débuteront dès mercredi soir à 21h et il est prévu qu'elles se poursuivent sans échéance prédéterminée. Parallèlement, les partenaires politiques, économiques et institutionnels et représentants de la société civile sont conviés à un collège économique et sociétal, Léo Fichou.
Ce collège se réunira du jeudi 3 juillet au matin jusqu'au vendredi 4 juillet à la mi-journée au ministère des Outre-mer, rue Oudinot. Il sera ouvert jeudi à 8h par une allocution du ministre des Outre-mer. Les partenaires politiques y participeront avant de reprendre les négociations politiques dans la soirée de jeudi. Ce collège économique et sociétal est structuré autour de 4 grands thèmes. La consolidation des finances publiques et les réformes structurelles, le nickel, la diversification économique et enfin le projet de société. Ces réunions sur les thèmes économiques et sociétals seront menées également en visioconférence depuis le commissariat à Nouméa pour permettre à d'autres participants d'intervenir à distance. C'est le ministre des Outre-mer qui animera ces échanges. Il faut noter que l'ensemble des participants au sommet sera associé à ces séquences de travail en fonction de leur champ de compétences.
Et le collège économique et sociétal se terminera vendredi midi, comme il est prévu, que les partenaires politiques reprennent les négociations vendredi après-midi. Des négociations qui se poursuivront samedi de 8h à 13h avant une reprise prévue le dimanche et qui dureront donc le temps nécessaire. L'actualité institutionnelle, un compte administratif 2024 dégradé et un contexte économique et social durement fragilisé. Les élus du Congrès examinaient hier les comptes administratifs des budgets de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement a réussi à dégager un résultat positif malgré une baisse conséquente des recettes fiscales, Léo Fichou.
33 milliards de francs, c'est la perte fiscale à laquelle a dû faire face la Nouvelle-Calédonie l'année dernière. En cause, bien évidemment, les émeutes de mai 2024 qui ont marqué un stop dans l'activité économique du territoire. L'impôt des sociétés a chuté, de même que les droits de douane impactés par la baisse des importations. Les droits d'enregistrement ont eux aussi été affectés par un marché de l'immobilier en grande difficulté. C'est au final une baisse des recettes de 16% par rapport à l'année 2023. Les trois budgets de la Nouvelle-Calédonie ont forcément été impactés. Le budget de reversement enregistre une baisse de près de 9,2 milliards de francs par rapport à 2023. Le budget de répartition a vu ses dotations baisser de 25%. Et enfin, le budget propre dégage un résultat positif uniquement grâce au soutien massif de l'État. Il est de 2,2 milliards et après déduction des restes à réaliser d'1,5 milliard. Pour le gouvernement, il est nécessaire d'engager une réflexion structurelle sur la soutenabilité des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. C'est un travail de rééquilibrage global que tente de mettre en œuvre Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget et des finances.
C'est tout le travail qui est en cours par l'intermédiaire d'un séminaire qu'on a lancé maintenant depuis pratiquement un mois pour essayer d'aboutir à une délibération cadre dans laquelle on ferait apparaître toutes les réformes structurelles dont la Nouvelle-Calédonie a besoin pour retrouver ces équilibres globaux, parce que là, on vient de parler des budgets des collectivités, mais vous imaginez que cette baisse des recettes fiscales affecte aussi tous nos budgets sociaux, au sens large, qui étaient déjà en grande difficulté avant que les choses se passent, hélas, l'année dernière, et qui se retrouvent encore plus en difficulté, et on doit également en tenir compte. Et c'est bien ce travail de fond, de rééquilibrage global que nous sommes en train de mener.
Les comptes administratifs de la Nouvelle-Calédonie ont tous été adoptés à l'unanimité. Le groupe UCF-LNKS et nationaliste, présidé par Pierre-Chanel Tutugoro, a salué cette gestion de crise.
Ce qu'on a pu avoir aujourd'hui dans le compte administratif, donc c'est le reflet justement de cette crise. C'est le résultat et le miroir d'une gestion rigoureuse quand même pendant une période de tempête. On s'en est bien sorti. Et on espère que l'exercice de 2025 va pouvoir déjà amortir le choc et puis pouvoir trouver les aides nécessaires pour enfin assumer le redressement. Il y a quand même des leçons à tirer de l'année 2024 par rapport à la fragilité des mesures sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir consolider notre budget.
De l'autre côté de l'hémicycle, les membres de l'intergroupe loyaliste ont aussi voté ces comptes administratifs, tout en soulignant les impacts encore à venir de la crise. Pour Philippe Blaise, membre de l'intergroupe, il y a urgence à réduire les dépenses publiques.
Ce compte administratif 2024, il vient confirmer ce qu'on sait tous, c'est l'ampleur des destructions économiques, mais également, si on lit entre les lignes, des choses qu'on ne subit pas encore et qui vont arriver. Par exemple, on n'a pas encore pleinement l'impact de tous ces gens qui sont partis, qui ne paieront plus d'impôts sur le revenu, de toutes ces entreprises détruites et qui ne paieront pas le même impôt sur les sociétés en 2025. Mais nous sommes intervenus pour dire qu'il faut dès maintenant avoir le courage d'abord commencer des réformes structurelles courageuses pour réduire la dépense publique. Et puis deuxième chose, il faut maintenant que nous apaisions la situation, qu'on envoie des messages qui permettent aux investisseurs, à ceux qui créent des emplois, des entreprises, de revenir, de reprendre confiance dans le pays. Ça n'est qu'à ces deux conditions que nous pourrons sauver la Calédonie.
Également présenté lors de cette séance publique du Congrès, le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie, il a atteint 320% en 2024, une forte augmentation liée aux emprunts contractés pour faire face à la crise.
Et j'ajoute qu'en ouverture de la séance, le Congrès a observé une minute de silence à la mémoire de France Debien, qui avait siégé boulevard Vauban et qui est récemment décédé. Sa famille était présente pour assister à cet hommage. En bref, le site minier de Népouy bloqué depuis hier midi, un blocage initié, indique la SLN dans un communiqué, par un petit groupe de personnes à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gardiennage. La société explique que le marché a été attribué dans les règles de mise en concurrence. De plus, ce blocage intervient dans un contexte de forte tension sur l'approvisionnement de l'usine de minerai, marqué notamment par l'inaccessibilité du site de Thiot et l'impossibilité d'évacuer le minerai de Kouawa. La SLN alerte donc sur les conséquences majeures qu'un tel arrêt ferait peser sur l'ensemble de la chaîne industrielle et appelle à la levée rapide du mouvement avant de réaffirmer qu'elle reste ouverte au dialogue.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous des avancées à la veille de l'ouverture à Paris du sommet sur la Nouvelle-Calédonie ? Si vous attendez surtout des avancées dans le domaine de l'avenir institutionnel, vous tapez 1. Si vous attendez plutôt des avancées dans le volet économique et sociétal, vous tapez 2. Et si vous pensez que ce sommet ne permettra aucune avancée, alors vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier concerne le sport. 75% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils trouvent dommage qu'en raison des émeutes de mai 2024, le CTOS n'ait pu emmener qu'une toute petite délégation au mini-jeu de Palau. Ils sont donc 25% à ne pas partager cette opinion. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Après les violences de mai 2024, le nombre de personnes en errance a considérablement augmenté. Les associations d'aide aux sans-domicile fixe constatent des besoins grandissants. Pour en parler, nous recevrons ce matin Aude Lafleur, la présidente de l'association Un Sandwich pour Autrui. Et puis, nous allons parler de l'art oratoire dans notre magazine Citoyen ce midi. Pour parler de l'éloquence, nous recevrons trois étudiantes de l'UNC qui ont gagné un concours interuniversité international au début du mois. Assia Banaraj Testa, Anaïs Hott et Soraya Kelfi ont remporté la finale à La Haye. Nous recevons aussi Annabelle Arnaud, qui est professeure en lettres modernes au lycée Jules Garnier. Elle organise le concours Rhetorica, dont la finale aura lieu mercredi. Et Guénolé Bouvet, formateur en prise de parole, un magazine citoyen consacré à l'éloquence, à retrouver ce midi sur Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h passées de 41 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment des nouvelles du Bois de Rabaye à Lifou.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Le reste de l'actualité sur le territoire et beaucoup de monde hier midi au Haut-Commissariat pour le cocktail de départ du général Mathéos, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Il quitte une fonction qu'il occupait depuis juillet 2022, mais il avait auparavant commandé la compagnie de Nouméa de 2004 à 2007, Léo Fichou.
Les représentants de la gendarmerie, de la police et de la justice, mais aussi beaucoup de personnalités de la société civile étaient présents pour saluer celui qui aura été en première ligne pendant les violences insurrectionnelles de l'an dernier. C'est le secrétaire général Stanislas Alfonsi qui présidait la cérémonie en l'absence du haut-commissaire Jacques Billan qui est à Paris pour participer au sommet convoqué par le président de la République. Il a salué les qualités de fermeté, d'équilibre et d'humanité dont le général Mathéos a fait preuve dans l'exercice de sa mission. Le commandant de la gendarmerie a tenu, quant à lui, à remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans ses fonctions avec un éloge appuyé à ses gendarmes. Le général Mathéos va maintenant rejoindre Paris. Son successeur, le général Aouchine, prendra ses fonctions vendredi. Ce sera lors d'une cérémonie qui se déroulera à Dumbéa.
En bref, une opération de contrôle des Nakamal organisée récemment sur réquisition du procureur de la République et dans le cadre du COTAF, le Comité Opérationnel Territorial Antifraude. 5 Nakamal ont été contrôlés, ainsi que près de 80 personnes. Et les investigations ont permis de relever notamment des infractions au Code du Travail et de saisir 19 grammes d'herbe de cannabis. Cette opération, coordonnée par le Haut-Commissariat et pilotée par la gendarmerie, a été menée conjointement avec les douanes, la CAFAT et la DTE, avec le soutien des polices municipales. L'objectif, indique le Haut-Commissariat, est de renforcer la protection des salariés et des consommateurs et de permettre à la Nouvelle-Calédonie de percevoir les recettes fiscales et sociales qui sont dues. J'en parlais juste avant la publicité, le complexe hôtelier de Wad Rabaye à Lifou sera-t-il un projet mort-né ? La question se pose après que le tribunal de commerce l'a placé hier en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois alors qu'il n'a jamais ouvert ses portes, Léo.
Cet établissement 5 étoiles portait pourtant tous les espoirs de la province des îles. Il devait à la fois promouvoir la destination à l'international et créer une cinquantaine d'emplois. Son ouverture annoncée pour décembre 2024 n'a jamais eu lieu. Le Wad Rabaye représente un investissement de 5 milliards financé par la SODIL et par l'État, au travers notamment de la Banque des Territoires. Mais il est allé de déconvenu en déconvenu et les violences insurrectionnelles de mai 2024 ont sans doute signé son arrêt de mort. Le tribunal de commerce a donné 6 mois aux investisseurs pour reconsidérer la situation. C'est en novembre qu'il statuera définitivement sur l'avenir de ce qui devait être le joyau touristique des îles Loyauté.
L'ADI fête ses 25 ans sur le territoire. L'Association pour le droit à l'initiative économique a permis à 14 000 personnes de créer leur entreprise sur le territoire, notamment grâce au microcrédit. L'ADI qui accompagne les porteurs de projets et leur permet notamment d'obtenir des financements. Écoutez Ségolène Thomas, la directrice régionale de l'ADI.
On ressent que le public qui passe les portes de l'ADI est toujours aussi diversifié. On a aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes, des travailleurs informels, des petites entreprises déjà existantes. Ce qu'on ressent, c'est que tous ont cette envie de pouvoir avancer. Donc beaucoup passent la porte de l'ADI pour trouver des solutions de financement quand les portes d'autres partenaires ne leur sont plus ouvertes, malheureusement. On sent que beaucoup s'orientent vers l'entrepreneuriat pour rebondir suite à un licenciement, mais beaucoup d'autres aussi ont pris l'opportunité de cette crise, si je puis dire, comme catalyseur d'initiative. Donc beaucoup se sont lancés en se disant c'est le moment ou jamais. Et donc aujourd'hui, on les accompagne, on les finance pour que ce passage se passe dans les meilleures conditions. Depuis le début d'année, on a financé près de 500 personnes pour créer ou développer une activité entrepreneuriale. Et on a un nombre de contacts importants, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des personnes qui n'avaient pas eu le réflexe d'aller voir l'ADI auparavant passent la porte de nos agences et finalement trouvent du répondant et de l'intérêt dans les services qu'on propose.
Kelly a créé par exemple les gâteaux de Lily. Grâce à l'ADI, elle a bénéficié d'un financement d'1 400 000 francs pour équiper sa chambre froide. Et depuis, elle rencontre un véritable succès.
Tout a commencé durant les événements en mai. Tout le monde demandait, les enfants, ils ont leur anniversaire, mais il n'y a rien d'ouvert, on ne peut pas y aller. C'était compliqué. Et donc du coup, moi j'avais tout, parce que comme je suis une fana de pâtisserie, je leur ai fait les gâteaux, tout ça. Donc j'ai eu tellement de demandes que je me suis dit, il va falloir peut-être que j'ouvre mon entreprise. Et voilà, donc après, à partir de là, il y a eu énormément de démarches qu'on commençait, assez complexes, dont le financement. Au départ, j'avais demandé aux banques de me financer. On m'a fermé un peu la porte au nez. Faut croire qu'ils ne croyaient pas trop en mon projet. Chose que l'ADI a pu faire, et c'est grâce à eux qu'au jour d'aujourd'hui j'ai pu ouvrir les gâteaux Lily.
Et aujourd'hui ça fonctionne, il y a de bons résultats en termes de chiffre d'affaires?
Oui, complètement. Au niveau des commandes, je croule sous les commandes au point qu'il y a des fois je suis obligée d'en refuser. Donc je pense à embaucher par la suite aussi.
Et demain, une matinée d'anniversaire sera organisée par l'ADI à la FOL. Et puis enfin, une bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le prix des carburants est en baisse dès ce mardi. L'essence est désormais affichée à 155 francs 40 le litre, soit une baisse de 1 franc 70 par rapport au mois de juin. Le diesel, quant à lui, est affiché à 135 francs, soit une baisse non négligeable de 3 francs par litre. Il est 6h47, vous écoutez RRB. On marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole. La métropole qui fait face à une vague de canicule.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'Université de la Nouvelle-Calédonie propose aussi de la formation professionnelle pour vous soutenir dans le développement de vos compétences tout au long de la vie. Que vous soyez un professionnel cherchant à acquérir de nouvelles compétences ou une entreprise désireuse de faire évoluer ses talents, bénéficiez d'un accompagnement sur mesure avec l'UNC pour vous orienter et vous conseiller. Infos et inscriptions sur le site unc.nc ou au 290-490.
Votre enfant envisage des études à l'étranger? Le Salon Getready vous accompagne dans ses projets d'orientation post-bac. Vendredi 4 après-midi et samedi 5 juillet au CREPAC à Nouville. Infos sur les démarches, les pays, les aides. L'entrée est libre. Plus d'infos sur Facebook.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Et la canicule qui envahit la métropole. 16 départements seront d'ailleurs demain en alerte rouge. 200 écoles ont dû fermer en cette dernière semaine de cours en métropole avant les grandes vacances estivales. Et avec cette chaleur et cette sécheresse, plusieurs feux de forêt sont à déplorer. Dans l'Aude, par exemple, 400 hectares sont partis en fumée depuis hier. En cause, un brasero mal éteint est transporté dans une remorque sur l'autoroute voisine de la forêt de Bizanet. Résultat, 7 départs de feu en 12 km. Les pompiers luttent donc activement. Margot Beaugrand pour Europe 1.
Oui, 400 hectares sont partis en fumée depuis hier. Un bilan encore provisoire car le vent réactive certains points chauds, explique le colonel sur place, Christophe Mani.
Et on savait que l'après-midi, on allait avoir des températures proches de 38, des bascules de vent et des rafales 35-45 km/h. Donc on a eu 8 réactivations du feu qui se sont faites. L'avant du feu était stoppé, mais on avait des foyers qui restaient actifs. Donc on a eu des fumées et des flammes.
300 pompiers sont toujours mobilisés avec l'aide de 80 véhicules et de moyens aériens.
C'est du coup des engins qu'on déploie en fonction du vent. On a engagé des canadaires pour traiter des visières qui étaient inaccessibles, soutenus par un dash qui est au-dessus à la verticale, savoir si lui a une nécessité ou pas de larguer. L'objectif, c'est de maîtriser ce feu pour qu'ensuite il soit circonscrit et qu'il puisse être passé éteint. Donc on sait que c'est une affaire de plusieurs jours.
Un incendie de cette ampleur en juin, c'est précoce, selon le pompier.
On a un niveau de risque qui a 3 semaines à 1 mois d'avance. Donc voilà, une saison 2025 qui s'annonce intense, c'est l'incendie le plus sérieux depuis le début de l'année sur le territoire national.
L'Aude qui est toujours en vigilance orange, canicule demain.
Margot Beaugrand pour Europe 1. En bref, le rejet immédiat de la réforme de l'audiovisuel public. Les députés ont largement approuvé une motion de rejet du texte de Rachida Dati qui prévoit notamment de rapprocher toutes les antennes publiques. Le Rassemblement national a joint ses voix à celles de la gauche. La loi va partir en deuxième lecture au Sénat. Dans l'actualité institutionnelle toujours, une commission mixte paritaire examine la loi Duplon, un texte qui est censé lever certaines contraintes pour les agriculteurs. Après son rejet à l'Assemblée nationale, le texte reste très décrié par la gauche et notamment par les écologistes. Résultat, 14 parlementaires tentent de trouver un accord, Arthur Delaborde.
Oui, 7 députés et 7 sénateurs réunis à huis clos pour essayer de trouver un compromis. Le texte, très attendu par les milieux agricoles, mais honni de la gauche et d'une partie du bloc central, fait l'objet d'intenses tractations. Ses soutiens souhaitent préserver l'équilibre trouvé au Sénat, tout en intégrant les avancées issues des débats à l'Assemblée avant leur dénaturation. Un compromis semble possible, notamment sur les points sensibles comme les dérogations d'usage de certains pesticides ou la définition des zones humides. Malgré son rejet à l'Assemblée, la proposition de loi n'a jamais été abandonnée. Pour éviter l'enlisement, ses partisans avaient même choisi une stratégie inédite, déposer une motion de rejet sur leur propre texte afin de le sauver d'un flot de 3500 amendements déposés principalement par la gauche et les écologistes. Si la commission parvient à un accord dans les heures qui viennent, la proposition de loi Duplon devrait être présentée dès après-demain au Sénat, puis dans la foulée à l'Assemblée, probablement la semaine prochaine.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. En bref, un nouveau record de surpopulation carcérale en France. Le nombre de détenus est de 84 447 au 1er juin. Les prisons françaises comptent 62 566 places, soit une densité carcérale globale de 135%. Elle dépasse même 200% dans une vingtaine d'établissements.
Radio Rythme Bleu, 6h51.
En Algérie, maintenant, c'est demain que la justice se prononcera sur le sort de Boualem Sansal. 10 ans de prison ont été requises à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. Et un autre dossier qui illustre les tensions entre Paris et Alger. Un journaliste sportif français a été condamné hier à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Le récit de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Tout part d'un reportage sur le football en Kabylie commencé il y a 10 ans, en 2015. Christophe Gless s'intéresse au club local, la jeunesse sportive de Kabylie. Il contacte donc le responsable du club qui est aussi le chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais problème, ce mouvement est classé comme organisation terroriste quelques années plus tard, en 2021, ce qui n'empêche pas le journaliste français de poursuivre son reportage et il se rend en Algérie l'année dernière. C'est là qu'il est interpellé, placé sous contrôle judiciaire pendant 13 mois. Il vient donc d'être condamné pour apologie du terrorisme mais aussi pour possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Une condamnation qui interroge sur la liberté de la presse en Algérie mais surtout qui sonne comme une vengeance envers la France et cela après Boualem Sansal. Face à la situation, le Quai d'Orsay assure que l'ensemble des services sont mobilisés. Les proches du journaliste appellent quant à eux à sa libération immédiate et inconditionnelle.
L'actualité religieuse en bref est le pape Léon XIV qui renoue avec la tradition du pallium. Le 29 juin, en la fête des saints Pierre et Paul, le pape a imposé le pallium aux nouveaux archevêques nommés au cours des 12 derniers mois. Cette année, Léon XIV a remis le pallium à 54 archevêques ayant pris possession de leur nouveau diocèse depuis un an. Et 2 Français figurent sur la liste des archevêques ainsi honorés. Monseigneur Susitino Sionepoe, le nouvel archevêque de Nouméa, et Monseigneur Jérôme Beau, l'archevêque de Poitiers. Le pallium est une bande d'étoffe de laine portée par le pape et par les primats et archevêques lors des cérémonies les plus importantes. Elle marque leur lien avec le pape et elle constitue un signe d'autorité. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et évidemment les mini-jeux.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais !
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la Maison du Pain.
Ah, leur vrai fait salade, j'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi, et même pour le dîner si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du Complexe Le 4, situé au 186 rue Jacques-Yécaoué, Le 4. Faites vos courses autrement. Prenez soin de votre basse-cour. Du 23 juin au 13 juillet, le poulailler Medium Square est à 59 990 francs seulement. Vos animaux à plumes et à poils ont aussi droit au bien-être. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les mini-jeux du Pacifique.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Première journée et déjà première médaille pour la délégation calédonienne à Palau. Elles viennent de la natation, Léo Fichou.
Il y a d'abord eu plusieurs médailles de bronze. Luc Mercier a été le premier à monter sur le podium. Le jeune calédonien de 18 ans a terminé troisième de la finale du 400 mètres nage libre en 4 minutes et 7 secondes. Il a été devancé par deux Tahitiens. On écoute le nageur du CNC juste après sa course.
Oh bah, je suis super heureux, j'ai fait une super course. J'ai battu mon meilleur temps, j'ai fait un super truc. Je suis trop content de gagner une médaille pour la Calédonie et là j'en ai des frissons, je suis trop heureux. Je sais qu'avec tous mes camarades là, je pense qu'on va faire beaucoup de médailles et on est super heureux là.
Et Luc Mercier l'avait annoncé, d'autres Calédoniens ont brillé juste après lui. Camille Jarcet a remporté le bronze sur le 400 mètres nage libre en 4 minutes 37. Clara Delunel aussi est montée sur la troisième marche du podium sur le 100 mètres 4 nages. Chez les garçons, Yaron Nodanche a terminé troisième lui aussi du 200 mètres brasse en 2 minutes et 20 secondes. Ils ont pu compter sur le soutien de l'équipe de volley. Les garçons étaient là pour les encourager. Et c'est aussi grâce à ce soutien, à cette mini-délégation soudée, que l'or est arrivé. Manon Baldovini, porte-drapeau calédonienne, a remporté la finale du 200 mètres brasse en 2 minutes 36. La nageuse de l'Olympique Nouméa est grimpée une seconde fois sur la plus haute marche du podium avec le relais 4 fois 100 mètres nage libre en 3 minutes 57. C'était aux côtés de Luciala Hacha, Clara Delunel et Camille Jarcet.
C'est incroyable.
Ah, franchement,
là,
c'est incroyable.
Tout le monde derrière nous et tout qui nous.
C'est
une
belle avance quand même.
Vraiment, ouais. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais. Je crois que l'équipe de Tahiti, c'était celle qui était au jeu. Et nous, il y a. Trois quarts de l'équipe qui n'était pas partie au jeu, on a réussi à les battre quand même. Alors c'est super.
Ouais, on commence bien les jeux.
Si on fait les comptes, du coup, la Nouvelle-Calédonie a remporté 6 médailles hier, toutes en natation, 4 en bronze, 2 en or. La Calédonie est donc 5e au classement des médailles. De bon augure pour la suite de la compétition.
Qui continue jusqu'au 9 juillet. Aujourd'hui encore de la natation avec de nouvelles chances de médailles, mais aussi le premier match des garçons en volley. Ce sera à 17h face à Nauru.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
La suite de l'actualité sportive à présent avec du tennis et la suite du premier tour de Wimbledon. Et les Français sont en forme, Léo Fichou.
Chez les hommes, d'abord, les Français s'en sont pour le moment bien sortis. Benjamin Bonzi a réalisé un véritable exploit, dominant Daniil Medvedev, tête de série numéro 9 en 4-7. Victoire également de Valentin Royer, issu des qualifications. Il menait 2-7-0 contre Stefanos Tsitsipas quand la tête de série numéro 24 a abandonné. Au deuxième tour, il affrontera un autre tricolore, Adrian Manarino, tombeur en 3-7 de l'Australien Christopher O'Connell. Ce mardi, Giovanni Mpeci-Péricard affronte Taylor Fritz. Arthur Hinderknecht défie Alexander Zverev. Arthur Cazot est lui opposé à Adam Walton. Et enfin, Quentin Alice joue contre Auguste Holmgren. Chez les dames, défaite surprise au premier tour de Varvara Gracheva, numéro 1 tricolore contre Alexandra Sansovic, issue, elle, des qualifications. En revanche, ça passe pour Diane Parry. Elle s'est imposée sur Petra Martic en 3-7 après avoir perdu le premier. Diane Parry affrontera au deuxième tour la tête de série numéro 12, Diana Schneider. Enfin, Elsa Jacquemot est opposée au premier tour à Magda Linette.
On parle de football également avec des surprises ce matin lors de la Coupe du Monde des clubs.
Et oui, alors qu'on annonçait une rencontre déséquilibrée entre l'Inter Milan et Fluminense, l'Inter Milan, je le rappelle, finaliste de la dernière Ligue des Champions, face au club brésilien 6e cette année du championnat. Eh ben, à la mi-temps, c'est le club brésilien Fluminense qui met 1-0, un but de Cano dès la 3e minute de jeu. À midi, le second cas 8e de finale opposera Manchester City à Al Hilal.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry, et des vigilances à annoncer ce matin.
Oui, nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent. Ce sera aujourd'hui et cette nuit sur la côte ouest de Boulot-Paré-Avaux et sur Farino et Saraméa pour un vent de secteur nord-est soufflant dans l'axe de certaines vallées à 25 nœuds avec des rafales voisines des 35 nœuds. Vigilance forte avec des pluies et des orages cette nuit sur la côte est et des averses localement fortes voire orageuses se déclenchant. Ce matin, souvent très nuageux, le ciel sera temporairement voilé sur l'ouest où le temps demeurera sec. Sur les autres régions, de rares averses circuleront encore, parfois plus nombreuses, le long de la côte est. Le vent pour ce matin s'oriente au secteur nord-est. Sur la côte ouest, il varie entre 10 et 15 nœuds. Dans l'axe de certaines vallées, parfois il passera les 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Cet après-midi, le temps sera très nuageux à couvert. En cours d'après-midi, des averses aborderont le nord-ouest. Sur la façade ex, l'extrême nord et dans une moindre mesure, les Loyautés et la pointe sud, des averses circuleront. Le vent pour cet après-midi nord-est, 15 à 20 nœuds. Comme prévu, 20 à 25 nœuds, des rafales jusqu'à 30 nœuds sur l'extrême sud et jusqu'à 35 nœuds dans l'axe de certaines vallées. 24 à 27 degrés en ce qui concerne les températures.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.